Il est 22h et vous écoutez Europe 1. C'est l'heure du journal, Isabelle Millet.
Le temps de passer la main est arrivé. Je pense qu'il y a un certain nombre de gens qui ont envie tout à coup de s'attaquer à la suite de cette aventure. C'est avec grand bonheur qu'on leur cède la place.
Coup de tonnerre, ce soir, 15 jours seulement avant la cérémonie, l'Académie des Césars démissionne en bloc. Elle était contestée. Une infirmière mortellement blessée dans les Deux-Sèvres aujourd'hui par un patient d'une unité psychiatrique. L'Europe va-t-elle manquer d'équipements de protection mais aussi de médicaments fabriqués essentiellement en Asie? Inquiétude avec l'épidémie de coronavirus. 7% de taux de chômage, c'est possible, dit ce soir sur Europe 1 la ministre du Travail après la publication des chiffres pour l'an dernier en baisse 8,1%.
On en a encore sous le pied. Et qu'avec un taux de croissance qui est robuste, sans être très élevé, on arrive à faire baisser le chômage et on pourra encore continuer.
Au sommaire également, le détail du grand oral, nouvelle épreuve du bac, déjà critiquée. Et puis, Épinal Saint-Etienne, c'est du foot, dernier quart de finale de la Coupe de France. Bonsoir Patrick Muller.
Bonsoir, c'est la pause et le score est de 1 à 0 pour Saint-Etienne face à Épinal. But signé Bouanga à la 37e.
Patrick Muller que l'on retrouvera évidemment beaucoup plus longuement dans le courant de ce journal pour faire un point sur cette rencontre. Et puis comme chaque soir à 22h20, vous avez rendez-vous avec l'interview d'Emmanuel Duteil, interview écho. Emmanuel reçoit ce soir Federico Muzzi, le patron des Vélo Look Corima, célèbre marque de cycle.
Europe 1.
Et c'est donc l'information de cette soirée. À 15 jours de la cérémonie, la direction de l'Académie des Césars a annoncé sa démission collective sur fond de crise. Plusieurs personnalités ont récemment dénoncé de l'opacité dans la gestion de l'Académie. Il y avait également la polémique Polanski, Académie des Césars qui est présidée depuis 2003 par le producteur Alain Terzian. Cette annonce choc survient après donc cette tribune qui a été publiée lundi soir dans le journal Le Monde. 400 personnalités, dont Omar Sy, Bertrand Tavernier, Michel Hazanavicius, Jacques Audiard, encore Agnès Jaoui, qui réclamait une réforme en profondeur parmi leurs griefs des dysfonctionnements, une opacité des comptes ou des statuts qui n'ont pas évolué depuis très longtemps et qui reposent encore sur la cooptation. Écoutez la réaction ce soir de la scénariste et réalisatrice Danielle Thompson. Elle est la vice-présidente du bureau de l'Académie des Césars.
Le temps de passer la main est arrivé. Je pense qu'il y a un certain nombre de gens qui ont envie tout à coup de s'attaquer à la suite de cette aventure qui est très très belle depuis des années et qu'on a réussi à maintenir vivante et que maintenant c'est peut-être à d'autres de le faire. Donc on a senti que c'était probablement la sensation d'une grande partie du cinéma français et c'est avec grand bonheur qu'on leur cède la place. Donc je pense que c'est très très bien comme ça et je suis tout à fait ravie de la tournure que prennent les événements.
La scénariste et réalisatrice Danielle Thompson, vice-présidente du bureau de l'Académie des Césars, jointe à l'instant par Romane Hockey. Autre information de cette soirée, on vient de l'apprendre, une infirmière mortellement blessée dans les Deux-Sèvres par un patient d'une unité psychiatrique. Elle avait 30 ans, elle était mère de deux enfants, elle a reçu un coup de couteau au thorax au centre hospitalier de Thouars. L'agresseur est un patient de 20 ans hospitalisé pour des troubles du comportement. Il a été maîtrisé par des soignants et placé en garde à vue. Un bébé de 2 semaines, grand prématuré, a été enlevé par sa mère mardi dernier dans un hôpital parisien. Il est en danger, d'après la préfecture de police qui lance ce soir un appel à témoins pour le retrouver le plus rapidement possible. Il s'agit d'une petite fille qui doit absolument être prise en charge médicalement. La maman est susceptible de se trouver actuellement en Île-de-France ou bien dans le nord du pays et peut-être accompagnée d'une femme enceinte. Elle a 28 ans, mesure 1m50, elle est de corpulence mince, elle a les yeux marrons, les cheveux châtains décolorés, mi-longs. Toute personne susceptible d'apporter des éléments permettant de les localiser et prier de contacter le numéro vert 0800 00 27 08 0800 00 27 08, numéro que vous pouvez retrouver bien évidemment sur notre site internet europe1.fr. Tariq Ramadan, mis en examen ce soir pour viol sur 2 autres femmes, des femmes interrogées comme témoins par les policiers il y a 1 an et qui ont été identifiées sur des photos retrouvées dans l'ordinateur de l'islamologue suisse de 57 ans. Ce dernier conteste toutes les accusations. Il est déjà mis en examen pour 2 autres viols. Le patient de 48 ans infecté par le coronavirus est hospitalisé à Bordeaux depuis le 23 janvier, a quitté aujourd'hui le CHU Pellegrin. Il n'est plus porteur du virus. Ce bordelais d'origine chinoise était rentré en France le 22 janvier en provenance de Chine. Il était notamment passé par Wuhan. Cet isolement forcé m'a fait prendre conscience à quel point le quotidien d'une vie est précieux, a-t-il réagi. Quant aux Français qui étaient en quarantaine à Carry-le-Rouet, eh bien ils pourront rentrer chez eux demain. Les ministres de la Santé de l'Union européenne étaient quant à eux réunis à Bruxelles pour coordonner justement à leurs actions. Et ce qui les préoccupe beaucoup en ce moment, Isabelle Horry, ce sont d'éventuelles pénuries de matériel de protection.
Oui, car près de la moitié de ces protections sont justement fabriquées en Chine. L'un des objectifs de la réunion, c'était donc de faire le point sur les stocks. Agnès Buzyn a résumé le problème devant les 26 autres ministres de la Santé.
La situation en Chine a des impacts directs, notamment sur la disponibilité des équipements de protection individuelle, comme les masques, les gants, les combinaisons de protection qui sont nécessaires pour assurer une protection efficace de nos professionnels de santé en contact avec les malades. La plupart des fabricants de ces équipements sont situés en Chine et sont eux-mêmes en rupture de stock.
La Commission européenne va jouer les centrales d'achat, elle va lancer un appel d'offres groupé. L'idée, c'est de convaincre des entreprises européennes d'augmenter leur production en leur assurant un débouché certain. Et puis, les 27 s'inquiètent aussi d'un deuxième risque de pénurie. Pour les médicaments, cette fois, plus de 80% des substances actives proviennent d'Asie, selon l'Académie française de pharmacie. Sous l'impulsion de la France, les Européens vont tenter d'identifier plus précisément ce qui pourrait manquer.
Les précisions d'Isabelle Horry, correspondante d'Europe 1 à Bruxelles. Par ailleurs, l'OMS se veut rassurante alors que les cas de coronavirus ont augmenté ces derniers jours en Chine. 15 000 contaminations supplémentaires. Cette augmentation reflète un changement des méthodes de dépistage et de calcul. C'est ce que disent en tout cas les spécialistes de l'organisation, mais pas une aggravation de l'épidémie.
Europe 1, Isabelle Millet.
Il est 22h06, merci d'écouter Europe 1, c'est la suite de votre journal. Et la baisse du chômage est une très bonne nouvelle qui montre l'efficacité des politiques conduites, a réagi cet après-midi Emmanuel Macron, sans céder toutefois au triomphalisme. La bataille n'est pas gagnée, a dit le président. Le chômage qui est donc à son plus bas niveau depuis 2008, 8,1%, ce qui rend l'objectif d'un taux à 7% à la fin du quinquennat atteignable. C'est en tout cas ce qu'a dit ce soir sur Europe 1 la ministre du Travail, Muriel Pénicaud.
C'est jamais mécanique, c'est jamais fait d'avance, donc il faut rester concentré, il faut continuer à engranger l'impact de ces réformes. Mais je crois que oui, c'est atteignable si on continue bien sur ces sujets-là, sur l'apprentissage, sur la formation professionnelle. Il y a déjà des effets, il y en aura plus demain, puisque ça a grandi. Il y a aussi la réforme de l'assurance chômage et il y a l'accompagnement des entreprises qui est fait sur le plan économique par la loi Pacte. Donc je crois qu'on en a encore sous le pied et qu'avec un taux de croissance qui est robuste, sans être très élevé, néanmoins, on arrive à faire baisser le chômage et on pourra encore continuer. Le plus important, c'est de le faire partout sur le territoire.
La ministre du Travail qui était l'invitée du Grand Journal de Nathalie Lévy ce soir sur Europe 1. La réforme des retraites, nouvelle réunion ce matin à Matignon avec les partenaires sociaux et nouvelles avancées selon le Premier ministre. Principal changement, le calcul des droits acquis avant 2025 se fera au moment du départ en retraite sur la base des 6 vrais derniers mois pour les fonctionnaires ou des 25 meilleures années pour les salariés du privé, ce qui d'après Édouard Philippe est plus respectueux de la réalité des carrières. La clause à l'italienne négociée au départ pour les régimes spéciaux sera donc généralisée aux actifs nés entre 1975 et 2004. Les syndicats, quant à eux, dénoncent toujours un blocage sur la pénibilité. C'est un point crucial, on le sait notamment pour Laurent Berger, le leader de la CFDT.
On sent un gros blocage des organisations patronales, avec sans doute des nuances entre elles. Et donc la CFDT, elle a réaffirmé aujourd'hui qu'il n'y a pas de réforme des retraites justes s'il n'y a pas une prise en compte de la réparation pour les salariés exposés à des pénibilités. Et elle a redit aussi qu'il appartient au gouvernement de prendre ses responsabilités pour faire des choix et donc peut-être ne pas faire plaisir à tout le monde, mais aller vers un dispositif qui intègre cette réparation et cette possibilité de départ anticipé pour des salariés exposés à ces pénibilités. Et puis, je crois aussi qu'il appartient aux députés, il reste encore quelques jours, de déposer des amendements parce qu'encore une fois, il ne peut pas y avoir de système universel des retraites juste s'il n'y a pas de prise en compte de la pénibilité.
Laurent Berger au micro Europe 1 d'Olivier Samin. Cet après-midi, un enfant a demandé à Emmanuel Macron comment arrêter les grèves. Si ça ne tenait qu'à moi, je te les arrêterais, a répondu le président, avant d'ajouter qu'il était optimiste sur le fait que tout le monde allait se réconcilier. Emmanuel Macron qui a passé cette journée en Haute-Savoie où il a notamment pu constater le recul de la mer de glace. Adrien Beck, vous avez suivi cette visite très axée sur le thème de l'environnement.
Oui, et quoi de mieux pour cela que de laisser parler l'image Emmanuel Macron sur la mer de glace, symbole du réchauffement climatique dans les Alpes. Une arrivée matinale, puis une descente le long des 500 marches qui conduisent à ce glacier en recul et un échange avec son guide du jour, le glaciologue Luc Moreau.
Vous, votre travail, forcément, il n'est pas sur le temps court. Malheureusement, vous ne le verrez pas pendant votre mandat, les décisions que vous allez prendre.
Vous avez raison. Et on voit d'ailleurs à quel point les non-décisions d'il y a longtemps conduisent à ça.
Après l'image, le discours, Emmanuel Macron est redescendu dans la vallée pour s'exprimer devant l'Office français pour la biodiversité. Alors pas d'annonce majeure, mais plutôt une manière pour lui de souligner ses actions pour l'environnement dont il fait un combat.
Sans doute avons-nous trop tardé,
et avons-nous encore quelques-uns à convaincre. Le combat, qui est un combat de temps long, peut aussi avoir des résultats concrets, tangibles, visibles. Ce sera le combat du siècle.
Un combat du siècle et une façon d'amorcer le virage écolo de son quinquennat avant des élections municipales prévues non pas dans un siècle, mais le mois prochain.
Adrien Beck qui a donc suivi ce déplacement du président en Haute-Savoie.
Europe 1, le journal de la nuit. Isabelle Millet.
Il est 22h10 et on en sait désormais un peu plus sur la nouvelle épreuve du baccalauréat qui terrifie les élèves, le fameux grand oral. Victor Dolande, les candidats seront face à un jury, debout et sans notes. Forcément, c'est impressionnant, surtout que ce sera un gros coefficient.
Cet oral de 20 minutes sera crédité d'un coefficient 10, c'est plus que la philosophie, coefficient 8. Et un peu moins que les deux épreuves de spécialité, elles-mêmes créditées d'un coefficient de 16. Ce grand oral, c'est une nouvelle pierre de la réforme du baccalauréat voulue par le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer. Et une nouvelle fois, les critiques pleuvent. La principale, c'est l'inégalité que cet oral pourrait créer entre les élèves. Tout le monde n'a pas les mêmes facilités à l'oral. Et pour Frédéric Rollet, secrétaire général du syndicat SNES-FSU, les professeurs vont avoir beaucoup de mal à préparer leurs élèves.
On voit bien qu'on a des programmes qui sont extrêmement chargés depuis la réforme et qu'il y a peu de temps possible pour entraîner, habituer les élèves à la prise de parole et à une prise de parole qui soit construite, argumentée, claire.
Alors, l'autre critique, c'est cette obligation de faire passer cet oral aux candidats de terminale debout et sans notes, vous l'avez dit. Ça va déstabiliser de très nombreux élèves, estiment les syndicats, et ça va pousser les autres à recracher un exposé par cœur. Ces oraux très contestés, vous l'aurez compris, débuteront lors de la session du bac 2021, c'est-à-dire l'année prochaine.
Les précisions de Victor Dolande du service Société d'Europe 1. Il n'y aura plus de match de foot les 5 mai en France en hommage aux 18 morts et aux milliers de blessés de la catastrophe du stade de Furiani en Corse le 5 mai 92. La proposition de loi a été adoptée en première lecture aujourd'hui à l'Assemblée à la quasi-unanimité. Elle doit maintenant être examinée par le Sénat, c'est ce que réclamait en tout cas le collectif des victimes. Le Sénat américain a lui adopté aujourd'hui une résolution visant à limiter une action militaire de Donald Trump contre l'Iran. C'est un nouveau camouflet pour le président américain qui devrait user de son droit de veto. Le texte qui doit être encore envoyé à la Chambre des représentants où il a de grandes chances d'être confirmé oblige en effet le président à demander un débat et un vote au Congrès, seule habilité à déclarer la guerre selon la Constitution avant toute guerre offensive contre la République islamique. En Irak, une base abritant des soldats américains a été visée par une attaque à la roquette. Aujourd'hui, pas de victimes signalées. Le Pentagone va renoncer à l'achat de plusieurs avions furtifs F-35 et de drones pour débloquer 3,8 milliards de dollars supplémentaires pour le mur que le président américain Donald Trump donc veut ériger à la frontière avec le Mexique. La démission en Grande-Bretagne du ministre des Finances, Sajid Javid, à un mois de la présentation du budget, visiblement en raison de désaccords de fond avec le Premier ministre Boris Johnson. Un remaniement qui pourrait ouvrir la voie à un vaste plan de soutien à l'économie britannique. Et puis les sports, avec un faux départ pour les Bleus, aujourd'hui en biathlon au championnat du monde. Ils ont terminé 7e seulement du relais mixte remporté par la Norvège. Le foot, comme promis, quart de finale de la Coupe de France, Épinal-Saint-Etienne. Le match se déroule à Nancy sous vos yeux, Patrick Muller.
Effectivement, c'est la 10e minute dans cette deuxième période et pour l'instant, la logique est respectée puisque les Verts de Saint-Etienne mènent 1-0 face à Épinal, club de National 2. Le but a été inscrit par Denis Bouanga en première période à la 37e minute. C'est relativement logique cet avantage parce que les Stéphanois ont eu l'essentiel des situations, notamment cette frappe à côté de Honora. Mais cette équipe d'Épinal oppose une résistance consistante à des Stéphanois qui sont à la peine en championnat, simplement 15e. Et attention, pour les Verts, ce n'est pas acquis parce que cette équipe d'Épinal, au tour précédent, a fait tomber Lille en renversant la vapeur. Ils étaient menés, ils avaient trouvé les ressources pour complètement retourner la situation. Donc il reste peut-être des possibilités pour les joueurs vosgiens, peut-être sur ce coup-là, avec les Stéphanois qui ont un peu de mal à s'en sortir, à se dégager, et les joueurs d'Épinal qui sont dans un temps fort, même si on va pouvoir se dégager s'agissant de l'AS Saint-Etienne qui mène donc 1-0 pour l'instant face à Épinal après 11 minutes en deuxième période.
Merci Patrick Muller au stade Marcel Picot à Nancy, que l'on retrouvera évidemment d'ici 22h30 pour faire un nouveau point. Et puis notez que le tirage au sort des demi-finales de cette Coupe de France a été effectué ce soir. Lyon recevra le PSG et le vainqueur du match qui se joue en ce moment, lui, recevra Rennes. Les rencontres auront lieu les 3 et 4 mars prochains. On jette un œil sur la météo avec vous, Anissa Haddadi. Et pour demain, Anissa, retour enfin d'un temps calme.
Oui, ça y est, enfin Isabelle, hein. Demain la journée sera un petit peu plus calme, avec tout de même sur la façade est quelques petites averses encore demain matin. C'est cette perturbation qui nous a touchés aujourd'hui, qui s'évacue doucement par l'est, donc il y aura vraiment quelques petites averses, rien de très inquiétant. Sur le Jura et les Alpes, il va tomber également quelques flocons demain matin à partir de 1000 mètres d'altitude. Du nord à l'Occitanie, eh bien là le ciel est couvert le matin, mais dans l'après-midi le ciel va se dégager presque partout, avec sur le nord le centre-Val de Loire, le bassin parisien, l'Aquitaine, le massif central et l'Occitanie. Un ciel bien dégagé avec même de belles éclaircies. Le long de la Méditerranée, le soleil brille généreusement. Là, il n'y a quasiment pas de nuages. Et le vent du nord-nord-ouest va se lever et il va souffler à 70 km/h. Les températures, elles sont fraîches, hein, demain matin. On aura 2 degrés à Valence et Avignon, 3 pour Lille, 5 à Lyon, 7 à Cherbourg, Périgueux et Paris, 9 pour Bordeaux. Et demain après-midi, 9 à 14 degrés en moyenne, 15 à 20 dans le sud-est.
La météo signée Anissa Haddadi. Europe 1. Et dans un instant, vous saurez tout sur la bourse avec Didier Hamo de boursier.com. Juste avant, l'invité d'Emmanuel Duteil qui reçoit ce soir le patron des vélos, Luc Corima. A tout de suite sur Europe 1. Il est 22h16 et avant de retrouver Didier Hamo pour la bourse, on va faire un nouveau détour par Nancy pour rejoindre Patrick Muller. Il bute visiblement dans le match entre Épinal et Saint-Etienne. Hein.
Eh, effectivement, et c'est pas bon pour le suspense, on va dire. En revanche, c'est bon pour les Verts qui mènent désormais 2-0 avec ce deuxième but signé Camara. Il a réussi à frapper ce ballon et à le mettre dans le soupirail dans l'intérieur du poteau. Et donc les Verts qui mènent 2-0 désormais ici sur la pelouse spinalienne, sur la pelouse de Nancy plus exactement, où évolue Épinal. Et on a franchi l'heure de jeu.
Merci beaucoup Patrick Muller. Et comme tous les soirs, on s'intéresse donc maintenant à la bourse avec vous, Didier Hamo, rédacteur en chef de boursier.com. Bonsoir Didier.
Bonsoir Isabelle.
Et Wall Street qui recule prudemment ce soir, toujours à l'écoute hein, bien sûr de la situation sanitaire en Chine.
Oui, Wall Street qui perd un petit peu de terrain, les nouvelles soufflent le chaud et le froid. Alors c'est vrai qu'on ne sait pas trop sur quel pied danser à Wall Street ce soir. On baisse après les records d'hier, hein, on baisse de 0,43% sur le Dow Jones, 29 423 points. Le Nasdaq perd 0,14%. 9 712 points. Apple recule de 0,7%. Les baisses ne sont pas spectaculaires, mais ça hésite beaucoup sur les valeurs de technologie. Apple, moins 0,7% à $324. IBM, moins 0,6%. Microsoft, moins 0,5%. Intel est stable. Facebook remonte d'1%. Cisco est attaqué. C'est la valeur qui souffre le plus ce soir, en baisse de 5,2% après l'annonce de commandes très décevantes au deuxième trimestre. Plombées par la Chine, les commandes ont chuté de 30% en Chine. Et Cisco, ça baisse de plus de 5% ce soir. Il y a quand même une exception à la hausse, c'est Tesla qui remonte encore au-dessus des $800, toujours plus haut, plus 5% pour Tesla à la clôture. Le pétrole reste assez ferme, il était remonté ces dernières heures, il remonte encore un petit peu, $56,55 le baril. L'euro, lui, descend encore à 1,0840 face au dollar.
Et la Bourse de Paris a aussi reperdu de la hauteur sous les 6100 points.
Oui, un petit peu de baisse, moins 0,19%. Pas mal remonté. Effectivement, on était au-dessus des 6100 points hier. Ça revient à 6093 points sur le CAC 40. Les publications d'entreprises ont encore animé la séance. Certaines annonces ont déçu, comme les annonces d'Ipsen, par exemple, en baisse de 6%, ou Capgemini en repli de 3%. Après avoir fait état d'un ralentissement de sa croissance au quatrième trimestre, Capgemini a perdu donc 3% à la clôture. Parmi les grandes valeurs en recul, on note Airbus, moins 2,7%, Danone, moins 2%, Peugeot aussi, qui redescend sous les 20 euros. 19,70 € en baisse de 2% ce soir.
Exception du jour, Didier, la FDJ qui s'est envolée de 11%.
Ça flambe, oui, oui. La Française des Jeux, plus 11%, effectivement, 26,57 €, portée par les résultats meilleurs que prévus, publié par le groupe ce matin, avec un excédent brut d'exploitation de 346 millions d'euros en 2019, un chiffre d'affaires qui grimpe de 8% à 1,95 milliard. Ça donne donc un titre qui s'envole de 11%. Rappelons quand même que la FDJ a fait son apparition en bourse, c'était en novembre dernier, à 19,50 €. Ça veut dire que la hausse est quand même de 36% en l'espace de 3 mois, un petit peu moins de 3 mois. Donc les actionnaires qui ont fait une bonne affaire hein, avec la FDJ depuis la mise en bourse du titre à la fin de l'année dernière. Sur les autres places financières, ça hésite pas mal aussi. Francfort stable, Bruxelles stable, Madrid moins 0,3%, Londres perd 1%. Vous en parlez tout à l'heure après les derniers remous politiques au sein du gouvernement gouvernement de Boris Johnson, Londres, accuse le coup, moins 1%. On rappelle le CAC 40 en baisse de 0,19%, 6093 points.
Merci beaucoup pour ce tour d'horizon, Didier Hamot de boursier.com. Et ça bouge encore au foot, quart de finale de Coupe de France, Épinal Saint-Etienne, Patrick Huller.
Effectivement, évolution de score avec la réduction du score de Épinal à l'instant même. 2-1 désormais pour Saint-Etienne face à cette équipe de National 2. C'est Jean-Philippe Crasso qui vient de marquer ce but sur pénalty. Et voilà donc qui relance peut-être l'équipe d'Épinal, sachant qu'il reste 28 minutes encore à jouer dans le temps réglementaire et que donc le score est désormais de 2-1 pour Saint-Etienne face à Épinal.
Et on va continuer bien sûr à suivre ça en direct avec vous sur Europe 1. Merci Patrick Muller. Et tout de suite, c'est l'heure de l'invité Éco. Emmanuel Duteil, vous recevez ce soir le patron des vélos, Luc Corima.
Bonsoir Federico Musi.
Bonsoir.
Vous êtes le patron de Luc Corima, la célèbre marque de cycles. Et si on a eu envie de vous inviter ce soir, c'est que vous venez là de présenter, il y a quelques jours, votre tout nouveau vélo. Il s'appelle le T20 et c'est un vélo qui est fait pour que nos équipes de France arrivent à gagner lors des Jeux Olympiques à Tokyo. C'est ça l'idée ?
Oui, c'est ça. Donc, tout bon, ravi d'être ici avec vous. Nous venons de lancer et présenter aux athlètes de l'équipe française les T20, donc T comme Tokyo, 20 bien évidemment comme 2020. Et c'est le vélo qui sera utilisé par les athlètes au JO. C'est le résultat des 4 ans de recherches. En fait, Luc et Corima travaillent avec la fédération depuis longtemps. Et chaque 4 ans, pour chaque JO, on prépare, on développe et on fabrique en fait, les vélos qui seront utilisés par les athlètes.
Comment se passe cette préparation ? C'est-à-dire que vous avez un cahier des charges de la fédération ou c'est vous, grand spécialiste du vélo haut de gamme et du vélo de compétition, qui arrivez en disant bah, « voilà ce qui aujourd'hui devrait être les meilleurs standards et voilà ce qu'on vous propose ».
Ouais, ben, au JO, en fait, c'est l'événement le plus important pour les athlètes. Donc la concurrence est énorme et un niveau de travail sur la performance, en fait, c'est un binôme homme-machine sur lequel il faut travailler. Les athlètes travaillent avec nous. Nous travaillons pour les athlètes pour arriver à construire un vélo qui assure la performance et donc le transfert de la puissance des athlètes pour la convertir en vitesse et accélération.
J'imagine que la grande peur, c'est à chaque fois que les athlètes testent pour la première fois ce vélo, si jamais ils vous disent « Oula, il n'est pas comme il faut ». Mais je crois qu'ils étaient plutôt contents ce coup-ci.
Oui, ils sont très contents, mais c'est beaucoup, avec beaucoup de fierté et de responsabilité qu'on s'engage sur un projet comme celle-ci. En fait, on travaille sur plusieurs éléments. Il y a la matière, donc le carbone. Nous avons une expertise très importante sur le carbone. Nous travaillons avec des tests en soufflerie pour avoir l'ergonomie et pour réduire les coefficients en fait, aérodynamiques, donc améliorer la performance dans ce sens-là, et bien évidemment les poids.
Pour vous, ce qui est capital, c'est que ce vélo, le T20, je rappelle son nom, c'est un peu votre Formule 1 à vous. C'est l'idée derrière pour que nous, dans le grand public, on ait envie d'acheter un vélo Look pour aller rouler chaque week-end. Il faut que ça fonctionne pendant les JO, et c'est ça l'idée aussi.
Oui. En fait, la piste est un peu la Formule 1, comme vous dites. Et donc, toutes les technologies qu'on développe et tout le travail qui est fait sur le T20 va être après décliné sur tous les autres produits, notamment les pédales, les pédaliers, les cadres et les roues, pour les produits en grande série. Bien évidemment, le T20 peut être acheté par des amateurs.
J'ai lu qu'il était quand même tellement pointu que pour un amateur, ce n'est pas obligatoirement le vélo sur lequel il aura le plus de plaisir.
Bon, il y a des amateurs très pointus,
oui,
mais bien évidemment, la plupart des amateurs vont acheter des autres types de vélos sur lesquels on a amené tous les savoir-faire, la technologie, avec bien évidemment aussi un prix beaucoup plus accessible par rapport au T20.
Oui, parce que le T20, c'est 7000 euros, c'est ça?
C'est 7000 euros, un vélo complet avec les roues, etc., arrive à plus de 10 000 euros, mais notre gamme vélo commence à 2500 euros. Et après, avec des autres produits comme les pédales, qui font partie de l'histoire de la marque, commencent en fait à 40 euros. Donc, avoir une gamme produit très large.
Pas très loin qu'avec la pédale. Alors, on a beaucoup parlé du T20, mais est-ce que le P24 est en préparation cette fois pour les JO qui auront lieu à Paris ?
Le P24 est en cours, pas de développement encore. On attend les résultats de Tokyo, les feedbacks des athlètes après les JO de Tokyo pour commencer et écrire les nouveaux chapitres pour les prochains 4 ans pour P24, Paris 24.
Ce qui est aussi intéressant, c'est que ces vélos français sont quasiment 100% made in France. En tout cas, ils sont imaginés chez nous, ils sont assemblés chez nous. Je crois que vous ne produisez pas, en revanche, la totalité du vélo chez nous. Mais c'est quand même des produits qui sont plutôt made in France. On arrive encore à produire un peu de vélos en France.
Oui. En fait, Luc et Corima, nous avons décidé de garder et continuer à investir dans les savoir-faire, mais aussi dans l'industrie. Et donc, une partie de nos produits, notamment toute la partie pédale et aussi les cadres et les vélos haute performance, sont fabriqués en France. Mmh. C'est dans ce sens-là, c'est un engagement, c'est avec un sens de responsabilité, c'est aussi avec beaucoup de fierté qu'on représente la France dans le monde entier et au JO.
Et vous êtes aussi sur le vélo électrique, vous ne pouviez pas laisser passer cette mode.
C'est une vague qui est arrivée depuis 3-4 ans. Moi, je dis toujours que dans les années à venir, dans les moyens termes, la plupart des vélos dans les villes et aussi et dans le monde entier, en fait, seront des vélos avec une assistance électrique. Luc et Corima ont fait de l'innovation toujours la force, en fait, de l'entreprise. On continue à développer, élargir la gamme, à moderniser et avancer. Et donc, nous aussi, on va jouer les jeux de l'électrique. Plus précisément, on va les faire avec des moteurs électriques montés sur des vélos route et aussi une autre discipline qui est en train de se développer, qui est les gravels, qui est en fait un vélo un peu tout terrain avec l'assistance électrique.
Je pense que c'est beaucoup trop tôt et c'est peut-être pas votre marque qui en bénéficierait le plus, mais est-ce que vous voyez une sorte d'effet grève sur vos ventes? C'est-à-dire que des gens qui, pendant les grèves, ont commencé à faire du vélo, se disent « je vais poursuivre » et pour ça, acquièrent un vélo plutôt de bonne qualité, voire haut de gamme, en se disant « je serais peut-être plus à l'aise sur ce genre de vélo ». Est-ce que vous le voyez du côté de chez Look dans vos ventes?
Pas tout de suite, mais en tout cas, l'effet d'avoir beaucoup de vélos, et dans le futur, il y en aura encore plus dans les villes, dans toutes les villes du monde, ça va aider à rendre les sports vélos encore plus populaires et donc à faire rentrer dans la marque Look et la marque Corima de nouveaux clients.
Eh bien, merci beaucoup et c'est tout le mal qu'on vous souhaite pour les mois et les années à venir. Un grand merci Federico Musi d'avoir donc été notre invité ce soir. Je rappelle que vous êtes le patron de Look Corima, grand nom donc du cyclisme. Nous, on se retrouve 22h20 demain sur Europe.
Merci à vous, à demain Emmanuel Duteil. Et dans un instant, on jette un œil sur les unes de vos quotidiens. À tout de suite sur Europe 1. Et voici donc ce que vous découvrirez demain à la une de vos quotidiens. Cinéma, César et Alali, titre Libération, coup de tonnerre dans le cinéma français. À 2 semaines de sa plus grande cérémonie, en pleine polémique sur son manque de transparence, la direction de l'Académie annonce sa démission collective, on en parlait tout à l'heure dans le journal. Macron conforté par la baisse du chômage, titre le journal Les Échos, le ramener à 7%, comme l'a promis le président, reste un objectif atteignable, sauf retournement de la conjoncture. Chômage, le plus dur reste à faire, écrit quant à lui Laurent Baudin dans le journal L'Alsace. Alors qu'une partie de la France manifeste depuis 2 mois et demi contre le projet de réforme des retraites, voilà un rayon de soleil aussi inattendu que plaisant. La diminution de 0,7% du chômage l'an dernier est évidemment une très bonne nouvelle. Tout triomphalisme serait cependant déplacé dans la mesure où le taux de chômage en métropole s'établit encore à 7,9% de la population active et même 8,1% en incluant les départements et territoires d'outre-mer. De plus, de grosses disparités demeurent entre les bassins d'emploi. Et puis plus grave encore, ces déséquilibres géographiques en matière d'emploi ne correspondent pas à la carte de France qu'avait dessinée le mouvement des Gilets jaunes il y a un an. Cela ne rendra que plus complexe la tâche du gouvernement de descendre sous la fameuse barre des 7%, voire d'atteindre le plein emploi autour de 5% après 2022. Les révoltés des pistes, titre le journal L'Humanité, qui nous apprend que les personnels des stations de ski appellent à leur tour à une grève historique contre la réforme de l'assurance chômage, celle des retraites et la précarité de leur profession. Et puis demain, c'est la Saint-Valentin, 14 février, et les lecteurs du Figaro découvriront pour l'occasion leur journal imprimé sur du papier rose avec une une consacrée à la baisse du chômage. Voilà donc ce que vous découvrirez demain matin dans vos kiosques. Et comme promis, un retour rapide au foot direction Nancy où l'on retrouve Patrick Muller, le stade Marcel Picot qui accueille le quart de finale de la Coupe de France entre Épinal et Saint-Etienne. On vous avait laissé, Patrick, tout à l'heure à 2-1 pour Saint-Etienne. Est-ce que ça a bougé?
Ça n'a pas bougé. Hein. Statu quo au niveau du score. Effectivement, 2-1 pour les Verts. Ici, face à cette équipe spinalienne, on le rappelle, qui évolue en National 2, l'équivalent du 4e échelon national. Ça n'a pas bougé s'agissant du tableau d'affichage. Mais il y a de fortes poussées spinaliennes depuis cette réduction du score tout à l'heure sur pénalty. C'est un petit peu un autre match qui a démarré. On a vu deux situations, notamment cette frappe de Biron au-dessus, et ils réussissent maintenant à trouver des situations dans la surface de réparation et aux abords des buts gardés par Ruffier. Les joueurs d'Épinal complètement débridés, complètement en confiance maintenant qu'ils ont réduit la marque, même si pour l'instant Saint-Étienne fait bonne garde et ne souffre pas trop sur le plan défensif, mais véritablement en termes de physionomie de match, les joueurs vosgiens ont trouvé de nouvelles solutions, peut-être avec encore un long ballon là. On a fait rentrer un petit peu de sang frais bien évidemment du côté du SAS d'Épinal, et ils vont y aller sur cette phase offensive, mais ce centre ne va pas trouver de destinataire. 27 minutes de jeu dans cette deuxième période, et c'est Saint-Étienne qui mène 2-1 face à Épinal.
Merci beaucoup Patrick Muller, en direct de Nancy pour Europe 1. Je vous souhaite une excellente soirée. Vous êtes avec Olivier Delacroix pour votre libre antenne. Bonsoir Olivier.
Bonsoir Isabelle.
Très belle soirée à vous également, et à tout à l'heure 23h.
À tout à l'heure.